Radio Campus 88.3. I love you. www.orléans.radiocampus.org.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
On est à une période où le système impérialiste est bloqué. Mais bloqué, ça veut dire que ça menace les populations de mort. On est dans une phase de bouleversement effroyable où, si la population ne prend pas ses affaires en main, c'est-à-dire si elle ne se pose pas la question que se sont posées les marxistes entre le début du XXe, 1917 et les décennies suivantes, eh bien, le capitalisme va nous faire crever. C'est ça, la situation.
Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous pour cette rediffusion d'une émission produite en mai 2020, à la sortie d'un confinement. Un entretien réalisé avec l'historienne Annie Lacroix-Riss qui, dès 2020, nous annonçait tout ce qui est en train de se passer. Tensions et guerres interimpérialistes, crises économiques, des très riches toujours plus riches et de plus en plus de pauvres toujours plus pauvres. Et partout dans le monde, un puissant essor de mouvements fascistes qui arrivent parfois au pouvoir. Cette rediffusion, c'est pas pour le plaisir de vous dire « Ah, on vous l'avait bien dit !» Annie Lacroix-Riss n'est pas voyante à boule de cristal, c'est une historienne marxiste. Et Marx, c'est une analyse économique de ce qu'est le capitalisme, un système par nature toujours en crise. Ce qui se passe est mécanique et était donc prévisible. Annie Lacroix-Riss, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Annie Lacroix-Riss, nous sommes plongés dans une crise sanitaire mondiale. Mais nous sommes aussi entrés dans une nouvelle phase d'une effroyable crise économique dont on mesure à peine la portée. Une crise aiguë du système capitaliste, et puis on peut le dire d'entrée de jeu, hein. Comme d'habitude, ce ne sont pas les riches qui vont payer la crise. Comme d'habitude, c'est nous, les petites gens, qui allons être vampirisés pour relancer ce système mortifère.
Comme on pouvait s'y attendre, parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes annonciateurs, on est entré avec la crise systémique qui dure chez nous depuis 50 ans et avec ses phases aiguës, de manière évidemment de plus en plus perceptible, on est entré dans une nouvelle phase historique, c'est-à-dire que, quelle que soit l'évolution immédiate de ces années, on est entré dans une nouvelle phase de révolution. Et on va connaître à travers le monde des révolutions dont on ne peut même pas imaginer les conditions et les lieux de déclenchement. On risque d'avoir les mêmes surprises qu'on a eues en 1917, c'est-à-dire une révolution de type prolétarien qui s'est déclenchée dans un pays impossible où il y avait 140 millions de paysans et 3 millions d'ouvriers, c'est-à-dire en Russie. Alors que le mouvement ouvrier avait perçu que, très certainement, la révolution, elle aurait lieu dans les pays capitalistes les plus développés, Allemagne, etc. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir des surprises du même ordre. Et qui dit que les craquements décisifs n'auront pas lieu dans peu de temps ou à terme aux États-Unis, dont le délabrement intérieur est quelque chose d'inimaginable ? Qu'évidemment, on ne nous fait pas percevoir, puisqu'on continue à nous donner une image, somme toute idyllique, des États-Unis qui, il faut se le rappeler, quand même assurent depuis les années 40 le coffre-fort mondial de la bourgeoisie, malgré toutes les rivalités interimpérialistes. Hein. Pourquoi ils acceptent de se faire manger la laine sur le dos ? Parce que si les États-Unis tombent, ils tombent tous. Ils tombent tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'impérialisme est actuellement dans une situation de détresse. Comme il est. Je dirais qu'il lustre un président qu'on ridiculise, mais qui est à l'image de ce que sont devenus les États-Unis. Trump, qui a somme toute la même politique que des gens qui sortent de Yale, de Harvard ou ailleurs, hein, même s'il l'exprime d'une autre façon. Donc il faut bien voir que les révolutions, les ébranlements, personne ne les prévoit jamais au moment où elles vont se prévoir. Ce qu'on peut percevoir, c'est au fond ce que disait Lénine en février 1917. Il était en Finlande, il se réunit avec des camarades du vieux parti bolchevique et il leur dit la chose suivante. La conjoncture, la crise, la guerre ont créé une situation dont on peut attendre des développements révolutionnaires à terme. Mais, dit Lénine, chers camarades, nous sommes trop vieux. Nous ne verrons pas la révolution. Février 1917, eh ben on réfléchit à ce qui s'est passé entre février et octobre 1917. On va avoir au moins un avantage, c'est que la tourmente qui nous attend va faire réfléchir très vite toute une série de gens qui ont cessé de réfléchir parce que les méthodes d'abrutissement des dernières décennies ont été très efficaces.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris ment.
Annie Lacroix-Risse, il semble évident que cette crise sanitaire du coronavirus est l'une des nombreuses métastases du cancer capitaliste qui ronge cette planète. Or, il reste encore des propagandistes sur les médias dominants pour nous expliquer qu'il n'y a pas de rapport entre le Covid-19 et le système capitaliste, que c'est pas du tout la faute de cette mondialisation qu'on nous promettait heureuse, grâce à la main invisible du marché qui était censé apporter bonheur et prospérité à toute la planète, comme on nous le surine depuis toujours et comme on a peine à le voir aujourd'hui. Et que finalement, ce virus, nous dit-on, ça serait la faute à pas de bol ou alors à cause d'un pangolin égaré, mais que ce Covid n'aurait rien à voir avec le capitalisme.
Le coronavirus, c'est une des conséquences d'une extrême mondialisation qui ne date pas d'aujourd'hui, extrêmement répandue en 1914 ou avant 1914, et qui était le résultat d'une expansion capitaliste complètement débridée, qui s'était déployée en particulier dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc oui, un aspect de la mondialisation du capital, certainement. Dans la période de développement ou de non-développement dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs décennies, nombre de chercheurs avaient, depuis les années 2000, et en particulier d'ailleurs l'affaire du SRAS avait mis en garde, dit à quel point il était important de lancer des recherches qui permettraient d'affronter une autre pandémie de ce genre qui risquerait d'être beaucoup plus développée. Autrement dit, que le coronavirus soit une conséquence de la mondialisation générale d'une part et d'autre part de la liquidation des services publics et une conséquence de ce que, à l'échelle notamment de l'Union européenne, nous avons éprouvé depuis une phase aiguë de la crise en 2008-2009 avec la liquidation des services publics, du système de santé, etc. Ce qui est certain, c'est que, et ne parlons pas même des origines, activité humaine et nature, mais une chose est sûre, c'est que certains pays sont en mesure de régler la chose mieux que d'autres, et il faut bien le dire, parmi ces pays, il est clair que la Chine a été en mesure, alors nous dit-on, comme d'autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est d'ailleurs vrai, encore plus massivement, la Chine c'est quand même près d'un milliard, 500 millions d'habitants. La Chine a été en mesure de gérer par un système socialiste centralisé les choses manifestement mieux que nous. Il est clair que, coronavirus inclus, les rapports de force sont en train de se modifier fondamentalement. Les modifications qui s'opèrent au profit objectif de la Chine est un pays qui a un petit peu plus de population que l'Inde, mais pas tellement. Si l'Inde connaît des zones de développement remarquables et de très grandes richesses et de très grands riches, la situation de la population indienne est dramatique en matière de sous-développement, ce qui n'est pas le cas de la population chinoise en aucun cas. Au contraire des grandes campagnes qui ont précédé sur la Chine et qui vont suivre sur la Chine, parce que l'impérialisme américain ne peut pas se réduire à l'idée que la Chine va dépasser les États-Unis, et pourtant ça va arriver dans pas très longtemps. Il est clair que on a avec la Chine un mode de gestion de la population qui ne connaît plus la misère. Je rappelle quand même qu'en Chine, les crues du Hangzhou, ça faisait à peu près, et pas loin de tous les ans, 3 millions de morts. Et je ne parle pas des autres famines, c'est-à-dire que la situation de la Chine en 1949 était une situation de sous-développement dont on a une idée aujourd'hui en voyant les faubourgs de Mumbai. On n'en est plus là. Donc une chose est sûre, quelles que soient les causes du coronavirus, il y a des systèmes qui sont plus favorables que d'autres. Quant à Cuba, pays affaibli par 60 années de blocus, et quel blocus ! Il y a un taux de médecins qui est supérieur à celui de la quasi-totalité des pays, y compris les pays capitalistes les plus développés, et un pays quasiment en ruine, dont les voitures ne tiennent qu'avec des pièces de rechange pour une base qui doit dater de 1959. Ce pays a un taux de mortalité générale qui le classe dans les premiers rangs du monde, mais c'est un pays qui prête ses médecins ou qui les loue dans des conditions qui sont ahurissantes. C'est vrai que le coronavirus est en tout cas un grand révélateur.
Cette crise du Covid-19 démontre donc qu'il y a des pays et des systèmes qui s'en sortent mieux que des pays purement capitalistes. On pensera par exemple à la vilaine Chine ou aux vilains Cubains. Et d'ailleurs, comme dans les années 60 et 70, on a vu le retour des Barbudos, les médecins cubains un peu partout sur la planète. Cuba a notamment envoyé des médecins en Italie, mais aussi dans des colonies françaises, des territoires français des Caraïbes. Et alors que les USA étouffent Cuba depuis 1962 avec un blocus terrible, les vilains staliniens des cocotiers non seulement gèrent le corona chez eux, à Cuba, mais ils trouvent en plus le moyen d'envoyer leurs toubibs dans des pays capitalistes pour sauver des vies. Mais sinon Cuba, c'est pas bien, hein, ça marche pas.
Ils en envoient partout. Ils en envoient en Iran. Et j'ai même vu récemment l'ancienne Union soviétique, qui n'est pourtant plus socialiste, dont les soldats sont allés désinfecter les rues de Brescia, au nord de l'Italie. Enfin bref, il est clair, ça va donner lieu à une campagne hystérique contre la Chine, et qui est une campagne à objectif économique, hein, qui est une campagne d'impérialisme qui ne veulent pas céder leur place, mais pourtant il va bien falloir qu'ils la cèdent. On est en train de vivre une démonstration de l'incapacité de l'impérialisme à prendre soin de sa population. États-Unis, France, Italie, Espagne en tête. Il est très intéressant d'ailleurs de noter que la relative capacité de l'Allemagne à gérer la chose, il y a eu en quelque sorte, au sein de cette Union européenne dominée par l'ancien Reich, réunifié et le marque, il y a eu une redistribution dans le cadre de l'affaiblissement du capitalisme, de l'affaiblissement de ses capacités de développement, il y a eu une redistribution des forces, c'est-à-dire que l'Allemagne pouvait conserver des forces industrielles dont nos capitalismes serfs, dont nos capitalismes dominés étaient somme toute très contents de se débarrasser. Eh bien, on voit le bilan. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui a elle aussi d'ailleurs beaucoup liquidé de ses industries, mais conserve des bases industrielles que nous avons perdues et dont la perte se mesure dramatiquement tous les jours, en nombre de masques, en tests. Je dirais que la dégringolade de la France impérialiste est démontrée de manière flagrante par cette crise du coronavirus et ça n'est pas fini. Nous vivons dans un monde où l'impérialisme en perte de vitesse se défend, comme il s'est d'ailleurs toujours défendu, même quand il était très fort, il se défend par une campagne de propagande incessante. Elle est assurée par des journalistes, des moyens d'information qui sont soudés plus que jamais au grand capitalisme qui les possède entièrement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais la concentration a fait que c'est encore plus important que naguère, de telle sorte que nous avons, via TF1 et autre chose, une présentation qui ne correspond jamais à la réalité, jamais. L'avantage des périodes de crise, c'est que la discordance entre la réalité vécue par les masses populaires et l'image de propagande qu'on leur en donne devient tellement grande qu'à un moment, l'idéologie tend à céder. On est entré dans une période de ce genre. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien. Je donnerai un exemple historique. La grande efficacité du bourrage de crâne de 1914 n'empêche pas les mutineries de 1917. Et les choses, sinon c'est clair, où les choses apparaissent comme non traitées et objet d'une tromperie de ceux qui sont en haut, tellement scandaleuse que les gens s'interrogent. On le voit bien d'ailleurs dans le désarroi de la population française, comme il y a ailleurs.
Alors effectivement, à quoi bon écouter la propagande? Les plus vieux d'entre nous ont peut-être été médiatiquement vaccinés au Tchernobyl et se souviennent par exemple qu'en avril 1986, la sacro-sainte télévision nous a assuré que le nuage radioactif ukrainien s'était arrêté aux frontières de la France. Alors voilà pour la confiance qu'on peut accorder aux médias dominants dans ce genre de moment, en rappelant qu'en France d'ailleurs, les médias privés sont entre les mains de 9 ou 10 milliardaires et que les médias publics, pourtant payés par le contribuable, sont eux aussi au service de la religion capitaliste. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette crise économique sans précédent, pourriez-vous, Annie Lacroix-Riss, rapidement nous rappeler ce qu'est le système capitaliste, comment il est né, s'est adapté, et comment il est aujourd'hui entré dans une crise aiguë qui risque de tous nous faire crever si on ne réagit pas?
Alors le capitalisme, eh bien, c'est un mode de production qui a succédé à plusieurs modes de production. Un mode de production qu'on connaît mal, qui est le communisme primitif, qui a été analysé par Marx et Engels, qui un beau jour, voilà, pour toute une série de raisons, a été remplacé par ce qui règne encore aujourd'hui, c'est-à-dire un mode de production reposant sur la propriété privée des moyens de production et d'échange. On est le troisième de ces modes de production. Un mode de production esclavagiste, un mode de production féodal et un mode de production capitaliste qui s'est installé grosso modo entre le 18e et le 19e siècle. En tant que mode de production dominant, sachant que dans le mode de production féodal, le système capitaliste s'est dessiné puisqu'il a été caractérisé par le capitalisme commercial, dont les modes de développement étaient différents du mode de production féodal et qui a fini par le vaincre. Dans ce système, qui n'est pas à certains égards un système nouveau, dans ce système reposant sur la propriété pour les uns, des moyens de production et d'échange, et la non-propriété pour les autres, on a des modes d'appropriation qui sont différents, mais qui reproduisent ce qui s'est passé depuis qu'il existe, je dirais, la propriété privée. Pour comprendre ce que Marx dit de la plus-value et du profit, du passage de la valeur du travail au profit, si on compare le mode de production capitaliste au mode de production antérieur, quand vous aviez le système de la corvée et que le paysan travaillait 5 jours pour le seigneur sur les terres du seigneur, il y a une petite minorité qui s'appropriait plus de 2 fois plus que ce qu'une immense majorité dépourvue de propriété avait pour vivre. La base du capitalisme, on la trouve avant. Elle est de même nature, je dirais, puisqu'il s'agit de systèmes reposant sur la propriété, de même nature que les autres, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'exploitation du travail. C'est-à-dire la différence entre la valeur du travail et ce qui en résulte, et qui, dans le système capitaliste, doit donner lieu, d'une part au salaire, et d'autre part à la valeur produite en plus, ce que Marx appelle la plus-value, et qui se transforme en profit. comprendre ce qu'est le capitalisme, qui repose sur la valeur d'échange, de marchandises, un système dans lequel tout est marchandise. On peut recommander aux auditeurs de faire quelque chose qui va devenir tout à fait nécessaire dans la période actuelle où il faut arrêter d'être idiot. On peut demander d'aller se prendre le manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire le premier programme communiste de la Ligue des communistes allemandes, émis en février 1848. Ceux qui lisent ce texte, qui est un texte de génie, dans lequel se trouve pratiquement en gestation toute la pensée de Marx, toute son analyse économique, il montre très bien ce qu'est le capitalisme, et en particulier ce qu'est le capitalisme à sa naissance. C'est-à-dire un système dans lequel la propriété privée donne à une minorité propriétaire le droit de faire travailler par contrat libre, cette fois-ci, comme dit Marx, du renard libre dans le poulailler libre, de faire travailler une masse de gens. Marx explique dans le manifeste et dans toute sa production ultérieure, y compris ce grand œuvre qu'est le Capital. Les premières brochures de Marx sont presque suffisantes. Si on lit le manifeste du Parti communiste, travail salarié et capital, salaire, prix et profit, on comprend ce qu'est le capitalisme, on comprend que le capitalisme mène au blocage des capacités de développement de production, comme le capitalisme a considérablement développé au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, la production, les capacités de production, on en arrive à une situation historique du capitalisme, parce qu'une chose est de définir le capitalisme, une autre chose est de voir comment se prolonge le capitalisme. Il a la même situation historique que le mode de production esclavagiste et le mode de production féodal. Eh bien, on est sur le plan historique dans une situation qui dure depuis très longtemps, contemporaine de la première crise systémique du capitalisme, de la crise 1873-1914, que Lénine analyse, la brochure « L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme », il montre en 1916 que ce système se heurte aux mêmes difficultés que les systèmes précédents reposant sur la propriété privée, c'est-à-dire devient de système capable de développer les forces productives, devient une entrave insurmontable au développement des forces productives. Et il montre, il y a plus de 100 ans, il y a 104 ans, qu'il va arriver au capitalisme, ce que Marx annonce dans le manifeste. Il montre que ce système va déboucher sur autre chose parce que ce capitalisme est incapable de développer les forces productives.
Annie Lacroix-Risse, au vu de ce que vous venez d'expliquer sur cette crise aiguë du capitalisme, il ne faudrait donc pas s'étonner de l'incurie, de l'incompétence, de l'improvisation de nos dirigeants politiques, qui ne sont donc que des pantins de l'oligarchie financière, qui est elle-même en pleine panique. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est que vous avez démontré dans vos ouvrages que pour, par exemple, mettre des régimes fascistes au pouvoir dans les années 20, 30 et 40, les capitalismes et les impérialismes sont capables de suivre des stratégies plus ou moins discrètes, hein, ne parlons surtout pas de complot, et ce, pendant des décennies. Mais alors en mai 2020, les mêmes capitalistes en panique nous déconfinent n'importe comment, et coûte que coûte, hein, parce qu'il faut relancer la machine économique, n'est-ce pas ? Quitte à faire repartir l'épidémie, et sans avoir aucune idée de ce qui va se passer dans 2 mois, alors que les mêmes sont capables d'avoir des stratégies sur des dizaines d'années.
Alors ça, c'est le problème des phases aiguës des crises, hein. La crise de la féodalité, elle a duré 300 ans, et puis voilà, elle s'est résolue pays par pays, dans une conjoncture politique donnée. Hein. Ça ne s'est pas fait tout seul d'ailleurs, il faut le noter d'ailleurs. Dans une situation d'incapacité économique, il faut encore que la population soit en état de réagir, parce qu'il n'y a aucun système qui a jamais implosé tout seul. Hein. Ça n'existe pas.
Des fois, il faut aider un peu, ouais.
Bien sûr, les classes dirigeantes ont des stratégies. Je dirais que quand ça va, ou quand ça va pas trop mal, les stratégies, ça marche très bien.
Oui, ben ça s'est vu, oui.
Des stratégies qu'il ne faut jamais qualifier de complot, des exemples historiques tout bêtes. Bon, évidemment, j'ai analysé celle de la synarchie qui était de se débarrasser d'un système politique jugé trop favorable à la population. Pensons à des choses aussi, la stratégie américaine pour se débarrasser de l'expérience de développement chilien, etc. Bon, ça, ça marche en général, parce que si rien ne se dresse contre les objectifs, ça, ça peut marcher. Une stratégie à long terme, ils en ont tous. La stratégie à long terme n'est pas difficile, c'est de maintenir le système d'exploitation. Mais après, on rentre dans le noyau dur du capitalisme, qui pose une question d'ailleurs qui n'est pas seulement celle de la crise sanitaire. Parce qu'il y a des pays impérialistes qui sortent mieux de la crise sanitaire. Il est clair que l'Allemagne s'en sort mieux que les États-Unis, qui sont une véritable démonstration de la destruction du système impérialiste américain, même à l'intérieur. Le capitalisme allemand s'en sort mieux que le capitalisme français, etc. Mais même ça, ça ne suffit pas. Je vais laisser tomber la crise sanitaire qui atteste une des absurdités du système parvenu à ce point, mais qui ne règle pas tout, parce que même dans un pays impérialiste comme l'Allemagne, qui règle mieux la question, qui a moins de morts, etc., mais l'obstacle est le même que pour les autres, parce que ce système où ces gens se concertent pour maintenir globalement leur domination, pour faire suer le burnou, tout le monde est d'accord. C'est bien pour ça d'ailleurs que l'ensemble des impérialismes ont accepté, et en plus ils ont gagné après les pertes de 1945 ou 1949, là ils n'ont pas récupéré, je pense à la Chine. Ils ont gagné de l'espace, ils ont gagné des capacités de développement, ils ont phagocyté l'URSS, ils ont phagocyté la zone orientale. Est-ce qu'ils ont réglé le problème du fonctionnement de l'économie? Non. Et puis, ils sont d'accord pour exploiter le burnou, mais ils ne sont jamais d'accord entre eux parce qu'ils sont, particulièrement dans les périodes de crise, évidemment, en concurrence permanente. Si l'Allemagne doit se sauver, est-ce qu'un pays impérialiste peut actuellement se sauver tout seul? Les marchés, ils vont les trouver où? Les capacités, même avec une population en meilleure santé, ils vont les placer où, leurs automobiles? On est dans une situation de crise de l'appareil productif, bien pire que celle des années 30. Celle de 1873-1914 a été épouvantable. Elle n'a pas empêché d'ailleurs, je dirais même qu'elle a favorisé le passage à la phase impérialiste, puisqu'il y en a qui s'en sont tirés mieux que d'autres, on a trouvé des nouvelles zones d'exploitation, etc. Il y a eu des phases très aiguës. Les marchés n'étaient plus ouvrables. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre générale? C'est le moment où, face au blocage des marchés, il faut bien faire une guerre qui permette de développer considérablement les dépenses d'armement assurées par une pression renforcée sur les populations, en l'occurrence doublement assuré par l'exploitation directe des masses ouvrières et par, je dirais, le contribuable. Ces armements, c'est le contribuable qui les paie, et ça, ça a permis, dans la Première Guerre mondiale, de s'en ressortir avec le nombre de morts, avec les pertes massives de population, ce qu'on pourrait appeler les forces productives humaines, avec les pertes massives, pas assez massives d'ailleurs, pour que l'effet en fût très prolongé, avec les pertes massives de capital. Il faut comprendre ce que ça veut dire, une destruction de guerre. Une destruction de guerre, c'est la liquidation du capital existant. Hein, ça tue des usines, ça liquide, faut reconstruire. On sait bien, on nous explique que c'est très bien les guerres parce que ça permet de reconstruire. Bon, ça, ça nous fait la guerre de 14, qui d'ailleurs ne liquide pas vraiment la surproduction 1873-1914. De telle sorte d'ailleurs que dans cette phase-là, où le capitalisme s'en est sorti, bien qu'il n'ait pas pu empêcher malgré tous ses efforts, l'expérience soviétique de se faire. Le capitalisme s'en est sorti, il a trouvé des parades. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repassé la même chose. Parce que comme le montre Marx, la structure même du capitalisme, c'est de passer son temps en crise. Mais depuis sa naissance, il y a une chose qui sont les grandes crises systémiques. La première grande crise systémique du capitalisme étant celle démarrée en 1873, mais toute la structure même du capitalisme a été, même avant la phase impérialiste, a été une structure ne fonctionnant que par crise. N'importe qui connaît le fonctionnement de l'économie capitaliste au début du 19e siècle, il y a un marché qui se déployait, on exploitait les travailleurs, et puis les possibilités du taux de profit s'estompaient dans la concurrence générale du capital, et paf, soit il y avait une crise plus aiguë que les autres, soit par exemple les travailleurs se trouvaient en chômage une partie considérable de l'année. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc si on ne comprend pas le fonctionnement du capitalisme, la redistribution du profit, etc., on ne peut pas comprendre les crises. Le problème, c'est que à partir de 1873, ce sont des crises systémiques qui ont débouché deux fois sur des guerres généralisées. Quelle est la fonction d'ailleurs des guerres généralisées? C'est de liquider les forces productives excédentaires. Les forces productives excédentaires, ça ne veut pas dire les forces productives parce que les besoins sont réalisés. Ça veut dire les forces productives excédentaires par rapport à la capacité de réaliser du profit. Si la population française et les autres populations ne veulent pas faire l'effort pour comprendre ce que c'est que le capitalisme et ce que c'est qu'une crise capitaliste, ça va être difficile de s'en sortir. Dans ces crises, on peut trouver une situation de destruction des forces productives. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on liquide plus de 50 millions de personnes, dont 32 Russes d'ailleurs. Dans la guerre espérée, par exemple par Rockefeller, il y a quelques décennies, racontait ça. Ce serait bien, par exemple, qu'il y ait une guerre générale parce qu'on pourrait liquider 500 millions de Chinois et puis ça ferait repartir la machine, etc. Le problème de cette phase actuelle du capitalisme, il y a un moment, et on le perçoit là depuis des décennies, il y a un moment où, comme le système esclavagiste sur sa fin, comme le système féodal sur sa fin, le capitalisme n'est plus capable d'assurer le développement des forces productives, même s'il fait beaucoup de destruction. Il n'est plus capable. On le voit avec une démonstration, je dirais, visible, si elle est comprise, qui est cachée par ceux qui nous assurent la propagande tous les jours et qui nous disent « oui, on pourrait régler les choses si on en revenait au capitalisme industriel, bien sain, pas financier, patati patalou. » C'est un raisonnement d'âne.
Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas moraliser le capitalisme, hein, parce que c'est comme le sketch des Inconnus, vous savez, vous avez les bons chasseurs et les mauvais chasseurs.
Oui,
et
ça.
Là, il y a des gens qui s'évertuent à nous dire qu'il y a un bon capitalisme sain à la papa qui apporte la prospérité à tout le monde, et puis un vilain capitalisme prédateur.
Ça va de la gauche gouvernementale, ou qui voudrait bien arriver au gouvernement sans rien changer, je dirais, à toutes les forces qui servent le capital, hein.
Annie Lacroix-Riss, l'étude de l'histoire nous enseigne que ce sont toujours les petits qui payent pour les crises générées par les riches. On voit par exemple comment le capital détruit nos conquis sociaux et autres services publics pour les marchandiser, et ce depuis des décennies. Et on peut aussi s'attendre à ce que, comme d'habitude, le pouvoir vole les quelques économies des petits épargnants pour renflouer le système et les banques et tout ça. A noter que quand dans son discours Macron nous dit que nous sommes en guerre, c'est pas pour nous envoyer dans la boue des tranchées du chemin des dames pour étriper des ouvriers allemands, mais pour nous rappeler qu'un gouvernement en guerre peut tout faire, et notamment piquer les sous des Français. On remarquera aussi que depuis le début du confinement, l'oligarchie financière fait tourner la planche à billets à mort. Alors nos euros sont-ils en train de devenir de la monnaie de singe, tout comme les brouettes de Deutsche Mark qu'il fallait aux Allemands des années 20 pour acheter un bout de pain?
D'abord, il ne faut pas tout mélanger. La crise de 2023 en Allemagne est une crise inflationniste. Alors là, il faudrait que j'explique ce que c'est que l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. La crise des années 20 est une crise qui pénalise l'Allemagne parce que l'Allemagne a eu un projet de se servir sur la bête pendant l'occupation de l'Est et de l'Ouest, et elle n'a pas pu le faire. Elle a pu occuper des zones entières qu'elle a exploitées d'une manière extrêmement efficace, en particulier sur le front oriental, mais aussi, je dirais, sur le front occidental. Il y a de très très bons historiens allemands qui, dans les années 70-90, avaient montré, personne n'en parle en France parce que c'est très très gênant, et ça gêne en particulier cette présentation de l'Allemagne nazie comme une espèce de phénomène zombie qui est arrivé avec des vilains petits hommes marrons qui se sont pointés en 1933 et qui sont heureusement repartis en 1945, alors que des historiens, notamment allemands, nous avaient montré que dans la crise qui a précédé la guerre, eh bien, on a des phénomènes qui précèdent la guerre et surtout dans la Première Guerre mondiale, on a le même processus que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Déportation massive de main-d'œuvre, occupation et pillage de territoire. Le manque de peau, c'est que l'Allemagne n'a pas pu faire ça à l'Ouest. Or, une partie essentielle des richesses qu'elle lorgnait était à l'Ouest. La France, pour une série de raisons, s'est bien défendue. La principale des raisons, d'ailleurs, qu'on a fait ignorer à la population, c'est qu'il y a eu un front de l'Est et que la moitié des divisions allemandes ont été occupées sur le front oriental. Ce qui fait que l'Allemagne a pu exploiter largement les richesses du Nord et de l'Est, mais elle n'a pas occupé toute la France. Et au lendemain de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène inflationniste, d'ailleurs accentué volontairement par l'Allemagne, parce que les propriétaires de moyens de production y gagnent le moyen de se débarrasser de toutes leurs dettes. Il y a un phénomène qui débouche, parce que l'Allemagne n'a pas pu se servir sur la bête, sur un phénomène inflationniste qui génère le phénomène que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire « je m'en vais chercher mon pain avec 23 milliards de marques ». C'est un phénomène inflationniste qui est la conséquence directe d'une guerre qui n'a pas été financée parce que l'Allemagne n'a pas réussi l'occupation qu'elle comptait réussir. Ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs que dans la Deuxième Guerre mondiale où elle a pillé la quasi-totalité du continent européen, sauf l'Union soviétique, qu'elle a détruite, mais à laquelle elle a pu piquer les récoltes de l'Ukraine et pas grand-chose d'autre, parce que la politique de la terre brûlée et la résistance farouche des soviétiques l'a empêchée de profiter du front de l'Est comme elle aurait dû profiter. Il n'empêche que la crise tout à fait momentanée qui a laissé filer l'impérialisme allemand, parce que ses plus grands concernent se débarrasser de la dette, cette crise inflationniste dont on nous gonfle la tête, c'est pas la même crise que la crise des années 30 où se manifeste non pas une inflation délirante mais une déflation que les grands groupes monopolistes peuvent liquider si je puis dire parce qu'ils disposent de tout l'appareil d'État et qui maintiennent leurs prix alors que tous les autres prix s'effondrent, voire même que les leurs s'effondrent mais qu'ils ont des parades. Alors, on va comparer des choses et on ne va pas les comparer. La crise des années 30 est une crise terrible, qui est d'ailleurs déclenchée, pas vraiment provoquée, comme toutes les crises systémiques, par une crise boursière, financière, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le coronavirus qui a déclenché la crise. Ce n'est pas vrai, la crise économique. Si les auditeurs veulent bien se rappeler ce qu'ils ont entendu ces dernières années, ça fait 2 ans, au moins, sans compter d'ailleurs ce qu'on usrine depuis 2008 et l'injection gigantesque de moyens de paiement qui ne correspondent pas à de la production. Ça fait 2 ans qu'on nous explique qu'on va vers une crise auprès de laquelle la crise de 2008 sera de la gnognotte parce qu'on a créé une masse monétaire qui ne correspond à aucune production et qui est une espèce de développement cancéreux de ce capitalisme financier qui ne date pas de la crise de 2008, mais qui date de la phase impérialiste. On a évoqué tout à l'heure la possibilité de moraliser le capitalisme. Il faut comprendre ce que c'est que le capitalisme. Pourquoi on passe du capitalisme de libre concurrence à la phase de Marx, qui se modifie d'ailleurs vers la fin de la vie de Marx et que Marx analyse, c'est-à-dire comment ce capitalisme dit de libre concurrence emprunte des nouvelles formes et en particulier transforme l'État, qui était ce que Marx appelait l'État veilleur de nuit, qui se contentait d'écrabouiller la population, de l'écraser quand elle n'était pas contente, par des forces de police et de gendarmerie tout à fait considérables, d'aider quand même dans la phase du capitalisme dit de concurrence, d'aider considérablement le très gros capitalisme. Parce qu'il ne faut pas y croire au capitalisme de libre concurrence du 19e siècle. Ce n'est pas vrai. Des moyens d'État, y compris à l'époque de Marx. Marx, quand il meurt en 83, ça fait belle lurette, il a pu lui-même l'analyser, que par la politique fiscale, par la politique d'investissement payé par le contribuable, pensons par exemple au chemin de fer qui se développe tant dans les années 1840, les chemins de fer, qu'est-ce qui s'est passé? Le contribuable a payé la base matérielle, c'est-à-dire la construction, et le capitalisme a eu les bénéfices. Qui est-ce qui a eu les bénéfices? C'était bien entendu les concessionnaires, c'est-à-dire qu'existait déjà à la fois l'exploitation directe et l'utilisation massive de l'État. C'est-à-dire que même à l'époque de Marx, l'État n'est pas seulement veilleur de nuit. Il aide à l'organisation du procès de production capitaliste. Il favorise exclusivement, massivement, les grandes sociétés qui ne cessent de se concentrer. C'est-à-dire que les phénomènes que Lénine commence à analyser, comme Engels, le phénomène qu'Engels, qui vit plus longtemps que Marx, et Lénine analyse, c'est un phénomène, mais qui a été analysé par Marx, de concentration du capital. Parce que c'est une caractéristique du capitalisme qui ne supprime pas la concurrence. Marx le montre remarquablement dans le Capital. Il ne faut pas croire que le capitalisme monopoliste est un capitalisme qui supprime la concurrence. Le capitalisme est une guerre permanente, une guerre pour avoir le maximum de profit. Et cette guerre pour avoir le maximum de profit, elle passe par l'écrasement du plus petit capital. C'est ce que Marx appelle la tendance au développement inégal du capitalisme, c'est-à-dire que le petit bouffe le gros. Ce système de libre concurrence est un système qui va vers le monopole et qui n'est pas un système moralisateur, puisque le fonctionnement du capital même est un fonctionnement de guerre, guerre contre les salariés, mais guerre entre les détenteurs du capital. Et cette guerre permanente, dont on voit tous les prémices à l'époque d'Engels et de Marx, ce qui leur donne d'ailleurs l'idée au milieu du 19e siècle que le système, il va bientôt mourir, hein. Il est persuadé à l'époque, le jeune Engels de 25 ans, que la première grande crise du capitalisme, mais qui est encore une crise agricole aussi, est une crise qui va déboucher sur la liquidation du capitalisme. Il se trompe. On s'est trompé 150 ans. On a dit que le capitalisme avait épuisé ses capacités. Ben non, il en avait encore. Mais qu'est-ce que montre Lénine? À la suite de toute la pensée social-démocrate, voire de droite, qui réfléchit, comme la population sait rien, on peut réfléchir tout haut et dire ce qu'on a à dire, de toute façon la population n'est pas au courant. Quand il fait cet ouvrage, il résulte d'une analyse qui a été faite, disons, entre les années 1890 et 1913. Il voit que le capitalisme est constitué comme il est constitué aujourd'hui. Et comme Marx le pressentait, il le présentait. C'est-à-dire que Marx fait bien la différence entre le capital matériel et l'argent, en montrant d'ailleurs la tendance du capitalisme à, en quelque sorte, régler ses crises par la fuite en avant monétaire. Mais quand Lénine réfléchit, on est à la phase impérialiste. C'est-à-dire dans une phase où on n'est plus avec le distinguo qui a existé entre le 18e et le 19e, entre le capital industriel et le capital bancaire. On est arrivé à une fusion. Donc, tous les ânes, volontaires ou non volontaires, qui nous expliquent depuis quelques décennies, ils nous l'ont fait avant d'ailleurs, mais depuis la crise de 2008, ils ont évidemment recommencé, qui nous expliquent qu'il suffit de moraliser le capitalisme en virant le capitalisme bancaire ou financier, ils appellent ça financier, et en réintroduisant un capital industriel bien gentil et bien moral, il trompe la population. La définition de l'impérialisme par Lénine dans l'impérialisme stade suprême du capitalisme, c'est quelques caractéristiques qui prennent une page, c'est-à-dire la tendance à la fusion entre le capital bancaire et le capital industriel, qu'on voit concrètement, en particulier dans les pays capitalistes alors les plus développés, comme les États-Unis et l'Allemagne. C'est vrai ailleurs, mais là c'est encore plus vrai. Regardez ce que c'est qu'un conseil d'administration bancaire en 1914, des 5 plus grandes banques allemandes. Le capital bancaire, de la Deutsche Bank, de la Dresdner Bank, de toutes les banques dont la quasi-totalité existe encore aujourd'hui, ce sont des conseils d'administration où le capital bancaire domine le capital industriel. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie qui, plus d'un siècle plus tard, nous explique que, bon, on a des capitalistes industriels rudement sympas et que quand on aura viré le capital financier, parce qu'ils appellent ça le capital financier, eh bien tout ira bien. Lénine montre que le capital financier, c'est la fusion des deux, avec suprématie du capital bancaire. Donc, qu'on aille réfléchir aux zones d'expansion du capital qui sont encore très fortes avant 1913, puisque ces messieurs, en se déchirant à qui mieux d'ailleurs, prennent le contrôle du monde. Et comment ils prennent le contrôle du monde? Ils se mangent la Russie. De 1892 à 1917, la Russie est une colonie. Ils se mangent la Turquie. Ils se mangent l'ensemble du monde qui reste pour l'essentiel aujourd'hui sous-développé. Ils se sont bouffés la Chine. Ils ont mangé toute l'Asie du Sud-Est. Ils ont conquis l'Inde. Donc il y a eu des zones de développement tout à fait considérables. Ils ont empêché la crise? Non. La crise d'avant 14 est affreuse et elle est une crise de surproduction. Non pas au sens où on produit trop pour des populations misérables, parce qu'on s'est beaucoup moqué en France du ridicule du Parti communiste quand il était un parti communiste qui parlait de la paupérisation. Ah, il faut les voir, les gens fort compétents qui dans les années 50-60 disaient « Oh, cette thèse marxiste de la paupérisation absolue et de la paupérisation relative, elle est absolument ridicule, ne parlons pas de la paupérisation absolue. » Qu'est-ce que c'est que la thèse de la paupérisation? Marx montre que c'est ça le capitalisme. Le capital vivant, c'est-à-dire la valeur nouvelle produite par le travail, est de plus en plus petit par rapport au capital mort, c'est-à-dire le capital investi en machines, en matières premières, etc. C'est ce que Marx appelle l'élévation de la composition organique du capital. Comme il n'y a que le travail vivant qui produit de la plus-value, qui se transforme en profit, on réfléchit. S'il y a en effet une augmentation considérable du travail mort par rapport au travail vivant, le produit du travail mort, il est allé entièrement chez le capitaliste. Ben, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le capitalisme est un système de paupérisation permanente de la population dans les crises de paupérisation accélérées. Ça dure. Ça nous fait la crise de 29 et des années 30. Ça nous fait la crise du tournant des années 60, fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, avec une surproduction, non pas absolue, mais une surproduction par rapport aux capacités de profit attendues. On est dans une situation où il y a un blocage des capacités de profit. Ce blocage des capacités de profit, il est illustré par ce développement cancéreux, métastasique du capital bancaire. On le voit bien, on nous le serine depuis 2008, c'était très antérieur bien entendu. Eh bien, déploiement des moyens de paiement, mais quand les moyens de paiement ne correspondent plus à la production matérielle, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coût Alors, comment il a été réglé en 2008? Très simplement, entre 2008 et 2010, comment l'endettement des banques, je ne dis pas l'endettement des pays, l'endettement des banques dans les divers pays capitalistes, était devenu un endettement des États. Les banques privées, exactement d'ailleurs comme ça s'est fait dans les années 30. Hein. C'est-à-dire, mon canard, ma banque va s'écrouler, tu vas faire payer par le contribuable l'écroulement de ma banque. C'est ce qui se passe dans les accords de 31, hein, 32, ce que j'ai analysé dans le choix de la défaite. Hein. C'est-à-dire, dette des banques subsumée par les banques centrales anglaises, allemandes, américaines, etc., c'est pas grave, c'est la population qui paie. Ça devient l'endettement des États. C'est l'endettement des États dans les années 30. Eh bien, on a fait ça ensuite sans interruption, avec, je dirais, un suravantage des pays impérialistes dominants comme les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a fait ça sans arrêt, dans une situation de verrouillage de la production matérielle. En tout cas dans les pays impérialistes.
Alors Annie Lacroix-Risse, attendez, là, vous êtes en train de nous confirmer que l'addition très salée de cette nouvelle phase de la crise économique, c'est encore nous, les gens, qui allons la payer.
Mais je viens de le dire, qu'est-ce qui s'est passé? La dette bancaire privée, la dette des banques, a été transférée sur les États. C'est ça la fameuse dette.
Selon le fameux principe privatisation des profits et mutualisation des dettes.
Voilà.
Donc là, ils vont nous piquer notre pognon, quoi.
De telle sorte, d'ailleurs, que les économistes les moins malhonnêtes, ce que Marx appelait les économistes bourgeois, c'est-à-dire ceux qui sont payés par la bourgeoisie, qui expriment la position de la bourgeoisie, nous ont avisé dès 2008-2010 que cette transformation de dette privée bancaire, ben c'est pas compliqué, hein. On passe d'une dette bancaire de 2008 à une dette d'État de 2010. Ça s'est terminé par la pression sur les salaires directs et la pression écrasante sur les salaires indirects, nos retraites, nos services publics, nos hôpitaux, tout ça là, tout ça accompagné d'une énorme propagande sur ces abrutis de fonctionnaires feignants qui nous coûtent cher, etc. On en était là de 2008 à 2020. Et en 2020, ce qui a été créé comme fausse valeur va être multiplié, je ne sais même plus, par 1000, par 10 000. Mais dans le système capitaliste maintenu, la dette qu'ils ont transférée des banques vers la masse de la population entre 2008 et 2010, elle va être multipliée par 1000. Qui va devoir la payer si on maintient le système? Hein? La population. Mais là, c'est plus nos retraites qu'on va bouffer seulement. Le problème, ce sera d'avoir le bol de riz. Autrement dit, on est dans une phase de bouleversement effroyable où, si la population ne prend pas ses affaires en main, c'est-à-dire, si elle ne se pose pas la question que se sont posées les marxistes entre le début du XXe, 1917 et les décennies suivantes, eh bien, le capitalisme va nous faire crever. C'est ça, la situation, qui n'est pas claire pour la population, parce que tous les jours, on lui rajoute une autre idiotie. On va aider le capitalisme industriel, ah bon, on va repartir sur du vert, c'est ça, on va repartir sur du vert avec BlackRock. Je dirais que la situation est à peu près résumée par la décision de l'Union européenne de prendre BlackRock comme conseiller vert des investissements futurs. C'est-à-dire qu'on est à une période où le système impérialiste est bloqué. Mais bloqué, ça veut dire que ça menace les populations de mort. Dont on a une petite idée dans ce qu'on nous dit aujourd'hui sur la Seine-Saint-Denis, parce que c'est bien joli de nous expliquer « Oui, maintenant, on ne va plus être une société de consommation, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Mais enfin, on en est à imaginer, ce qui ne relève même pas de l'imagination d'ailleurs, des émeutes de la faim dans une Seine-Saint-Denis où une partie considérable de la population n'a pas à manger. N'a pas à manger. Vous l'avez vu ça en regardant des images sur les États-Unis, mais j'en ai vu même en France. où il y a des énormes tracteurs qui écrabouillent les récoltes, du lait qui s'en va par les énormes robinets. Ça, d'ailleurs, c'est une illustration remarquable de ce qu'on appelle la surproduction. La surproduction n'est pas une surproduction par rapport aux besoins des populations, c'est une surproduction par rapport aux capacités de réalisation du profit. Pas de profit, on jette. On est confronté à ça, c'est-à-dire à la situation qui a été présentée au peuple entre 1930 et 1945. Dans une conjoncture, je dirais, historique, peut-être plus prometteuse, parce que les impérialismes n'ont pas le recours à la guerre générale aussi facile qu'en 1914 ou 1939, étant donné que, y a une Chine, il y a une Russie, il y a une communauté internationale qui est tous les journées, parce qu'il paraît que la communauté internationale, c'est les alliés des États-Unis. Les alliés des États-Unis ne représentent pas ce qu'ils représentaient en 1914 et en 1939. Donc on a une perspective historique telle que l'impérialisme n'est probablement pas en situation de déclencher une guerre générale, mais une catastrophe générale, ça y est, il a déclenché. Alors, on va peut-être pouvoir faire attendre un petit peu les populations en leur avançant des verts, des fascistes, des ceci, des cela, mais on ne réglera pas la crise comme ça. C'est fini. Et si la population ne se pose pas les questions que la population, ou une partie de la population, s'est posée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans une conjoncture équivalente mais infiniment moins grave, les populations savent ce qui les attend. Autrement dit, la situation, elle est maintenant dans les mains des populations.
Alors Annie Lacroix-Risse, on fait quoi ?
La seule solution globale, c'est pas difficile. Le grand capitalisme qui détient tous les moyens ne se transformera pas en club de dames patronesses. Il possède tout. Il contrôle les gouvernements. Il contrôle les moyens d'information. Il contrôle l'économie. Il contrôle tout. Quand je dis qu'il faut se poser les questions que s'est posé le mouvement ouvrier entre le 19e siècle et 1914 et décennies suivantes, où on trouve une solution politique. Et je pense qu'on est entré dans une phase propice aux révolutions où il n'y a pas de solution à court terme. Mais tout repose dans la capacité des populations qu'on a abruties là, pendant 50 ans, et je ne parle pas des 30 dernières années, à qui on a dit que la démocratie était tombée sur l'Europe, qu'heureusement qu'on avait viré les soviets, patati patata, Je viens de lire un texte absolument extraordinaire d'un représentant du patronat polonais qui dit, parce qu'il y a des moments où l'idéologie s'effondre, la Pologne, elle allait quand même beaucoup mieux dans le cadre du Comecon. Nous terminons sur cette remarque bien terre à terre et qui, donne à la population tous les droits qu'elle s'est laissée arracher et qu'il lui faudrait récupérer.
Annie Lacroix-Risse, merci pour ces paroles d'encouragement et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir très prochainement avec vous. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Et à bientôt.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette conversation enregistrée en 2020 avec l'historienne Annie Lacroix-Risse. Vous voyez que dans cette émission, on raconte pas que des fables et des billevesées. Hélas, à réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, tant qu'on peut. Salut.